Thérèse Dossin est déléguée régionale de la Fondation de France en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et Jasmine Dumortier est présidente du comité de quartier des Hauts-Champs à Roubaix. Elles sont dans le studio avec nous pour parler du réveillon de la solidarité, nous tous ensemble pour 2012, soutenu par la Fondation de France et qui aura lieu le 31 décembre 2011 à l'école Brossolette à Roubaix. Mais avant de parler plus précisément de ce réveillon de la solidarité, une question pour Thérèse Dossin. Quelle est la philosophie de la Fondation de France en termes de projet solidaire ?
Alors, la Fondation de France existe depuis 1969, et depuis cette date-là, on a une mission essentielle qui est de soutenir des projets émanant d'associations ou plus largement d'organisations à but non lucratif, associations qui mènent sur le terrain des projets qui rendent les habitants d'un quartier, par exemple, comme c'est le cas pour le comité de quartier des Hauts-Champs, véritablement acteurs des solutions qui les concernent. Alors, tous nos programmes d'intervention, ils sont nombreux. On travaille aussi bien sur des programmes à destination de personnes en très grande difficulté, des programmes dans le domaine de l'emploi, dans le cadre duquel on a soutenu la compagnie de Thomas Duchâtelet, l'emploi, l'habitat des personnes en grande difficulté, les personnes âgées, les enfants et les familles en difficulté, etc. Mais aussi tout ce qui concerne le développement de la connaissance. On a de nombreux programmes de recherche médicale et scientifique, des programmes dans le domaine de la culture, et puis aussi des programmes dans le domaine de l'environnement. Donc on a vraiment un panel de programmes et d'activités très large, et c'est notamment dans ce cadre qu'on monte depuis quelques années un programme sur les réveillons de la solidarité.
Quels sont les critères de choix pour un dossier pour la Fondation de France ?
Alors, ça dépend bien sûr des programmes. Il y a des critères très ciblés en fonction des programmes.
On va rester sur la solidarité, du coup.
Alors, bien sûr, sur la solidarité. Je crois que le critère essentiel, c'est vraiment celui qui fait que les personnes en difficulté sont véritablement actrices des projets qui les concernent. C'est vraiment le critère essentiel. Après, il y a des critères qui concernent la mixité, par exemple. Faire en sorte de ne pas stigmatiser les personnes en difficulté, mais bien de les entraîner avec d'autres dans des projets en commun, sur les quartiers, dans les villes, etc. Il y a aussi la question de l'intergénération, par exemple. Voilà, ce sont vraiment les critères transversaux à l'ensemble de nos programmes d'intervention.
Alors, la Fondation de France a été créée en 1969 sur une idée d'André Malraux pour promouvoir le mécénat. Mais beaucoup de choses ont changé depuis 1969, et notamment le régime fiscal des fondations.
Oui, c'est vrai que le régime fiscal des fondations aujourd'hui est, je pense, un des plus favorables en Europe. Donc ici en France, les choses ont beaucoup évolué, dans le bon sens en tout cas pour les associations et les fondations, et puis pour tous ceux que nous pouvons grâce à cela soutenir, les particuliers, les entreprises. Il y a eu de très nombreux textes de loi et de réglementation depuis les années 2002. Aujourd'hui, un particulier qui fait un don à une fondation ou à une association peut déduire 66% du montant de son don, alors avec une certaine limite bien sûr, donc de son revenu imposable. Et puis les entreprises, elles, peuvent déduire 60% de leur impôt sur les sociétés dans la limite de 5 pour 1000 de leur chiffre d'affaires. Donc la fiscalité est vraiment avantageuse. Il y a eu des amendements là contre lesquels notre direction s'est beaucoup battue. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler il y a 8 jours, parce qu'il était question que ces déductions fiscales fasse partie des niches fiscales. Alors bien évidemment, pour tout le monde associatif et le monde des fondations, c'était très grave, très très grave d'assimiler ça à des niches fiscales. Donc la direction de la Fondation de France notamment, qui essaie de faire reconnaître le bien fondé de ces déductions fiscales, mais aussi du coup du travail des fondations et des associations sur le terrain, s'est beaucoup bagarré pour ça. Et heureusement, ces amendements ont été mis de côté pour le moment. Mais on reste très très vigilant.
Alors c'est bien un combat qui a réussi en tout cas. Quel est le rôle d'une déléguée régionale de la Fondation de France ?
Oula ! Il est multiple. Disons qu'on est, bien sûr, on représente la Fondation de France dans la région. On est une espèce de mini Fondation de France dans la région. Donc en fait, on développe un peu l'ensemble des missions de la Fondation de France. La principale, c'est bien sûr d'être au contact des associations dans le cadre de nos programmes et de pouvoir soutenir ces associations. On lance des appels à projets, on reçoit soit des dossiers de demande de subvention, on les étudie, on les analyse, on rencontre les porteurs de projets sur le terrain, et puis on a des jurys qui décident ou non de l'attribution de subventions. Mais on a aussi une mission de développement des ressources, bien sûr, puisqu'on donne de l'argent, il faut aussi qu'on en trouve, et donc des contacts avec les entreprises, hein, essayer de sensibiliser les entreprises au mécénat d'entreprise, hein, et les faire venir sur nos programmes d'intervention. Et puis également une mission de communication, un petit peu comme on le fait aujourd'hui dans cette émission, c'est-à-dire faire parler de la Fondation de France, la faire connaître nos missions et notre travail pour avoir aussi des financements et se faire connaître des associations.
Voilà, bah alors en quelques mots, vos missions. Puisque finalement, c'est le moment de les faire connaître.
Eh bien, les missions, donc, promouvoir nos programmes d'intervention, nos appels à projets auprès des associations, et puis nous faire connaître auprès des potentiels donateurs, des entreprises, pour recevoir de l'argent.
Alors, Jasmine Dumortier, vous êtes au comité de quartier des Hauts-Champs à Roubaix. Alors, en quoi consiste votre travail au quotidien? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait au comité des Hauts-Champs?
Alors, au comité des Hauts-Champs, nous avons pour but d'aller à la rencontre des habitants pour leur permettre justement d'éviter l'isolement, de pouvoir trouver, si vous voulez, un écrivain public, quelqu'un pour discuter, pour pouvoir éventuellement faire des voyages l'été à moindre coût, pour pouvoir organiser une fête, organiser une course aux œufs à l'occasion des fêtes de Pâques, organiser un arbre de Noël. Ça peut être beaucoup de choses. Et c'est vrai que le comité de quartier a pour but justement de permettre aux gens de venir simplement, sans se poser de questions, et de pouvoir trouver un interlocuteur. Et en fait, c'est ça le but du comité.
Ça veut dire qu'il y a un vrai besoin de lien.
Oui, bon, on ressent actuellement encore plus avec la crise qui s'est bien installée, qu'effectivement les gens ont besoin d'expliquer leurs problèmes sans pour autant y arriver. On sent que ils ont du mal à sortir de chez eux, ils ont du mal à partager les choses parce qu'ils sont en souffrance. Et donc, nous, justement, notre rôle est de leur tendre la main, de les aider à venir nous voir, à leur donner aussi à partir de ce premier pas, l'occasion d'aller plus loin, de trouver un travail, d'aider un enfant à faire ses devoirs le soir, de réaliser une recette de cuisine. Ça peut être plein de choses en même temps.
Oui, prendre confiance en eux.
Voilà, reprendre confiance en eux. Et puis aussi, je ne suis pas tout seul, il y a pire que moi, et aller de l'avant, reprendre confiance en eux.
Ils sont combien à fréquenter cette association?
Alors, c'est variable. Donc, ici, au niveau, ça dépend. Ça dépend, en fait, les actions. C'est vrai que cet été, par exemple, en partenariat avec le centre social des Hauts-Champs, nous avons organisé donc des voyages, Nausicaa, une journée à la mer, etc. Et on s'est aperçu qu'il y a énormément de personnes qui se mobilisent, qui participent de plus en plus, justement, à ces voyages. Alors, ça dépend. Nous avons aussi la chance d'avoir des écrivains publics. Et donc là, bon, il y a une très forte demande. Hein, donc les écrivains publics ont pour rôle de monter des dossiers de surendettement, de monter des dossiers de naturalisation, des
oui,
tas de choses comme ça.
Tout ce qui est compliqué, les rapports avec l'administration.
Voilà, oui, tout ce qui est compliqué, tout ce qui ferait surtout que les gens...
ne ferait pas la
démarche et ignorerait leur droit.
Oui, ce qui pourrait être grave pour
eux. Ce qui pourrait être grave, oui.
Alors, Thérèse Dossin, en quoi consistent les réveillons de la solidarité qui ont lieu finalement dans plusieurs villes de France? Il n'y a pas que Roubaix.
Oui, donc c'est une opération qu'on mène à l'échelon national depuis plusieurs années et qu'on renouvelle d'année en année, d'ailleurs, tellement on sent que ça correspond à un besoin très fort dans les villes et les quartiers. Donc ça consiste à soutenir des associations qui montent des projets de réveillon solidaires sur leur quartier, dans leur ville, en milieu rural, en milieu urbain. Et projets de réveillon où, comme je le disais tout à l'heure, où les personnes sont véritablement actrices du projet. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un réveillon où tout est fait pour les gens. Ils sont invités, ils s'assoient, ils s'en vont. Hein. Mais au contraire, où très en amont, les personnes sont associées à la conception même de la fête, à l'organisation de la fête, dans ses moindres détails. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble ce soir-là? Est-ce que ça va être organiser un marché de Noël, fabriquer des objets pour vendre à ce marché de Noël, du coup trouver un petit peu d'autofinancement pour financer le réveillon, etc. C'est des projets qui coûtent pas très cher en soi, mais qui ont beaucoup de sens, évidemment, pour les personnes les plus en difficulté, hein, les plus précarisées par la situation d'aujourd'hui, hein, puisqu'on sait que l'isolement augmente en même temps qu'augmente la pauvreté, et que donc ces projets-là, ils ont beaucoup de sens, et c'est un temps fort dans un moment de l'année, mais qui correspond souvent, et d'ailleurs on le demande pour financer les projets, à un travail de fond qui se fait par les associations tout au long de l'année.
Voilà. Alors Jasmine Dumortier, que va-t-il se passer ce 31 décembre 2011 à l'école Brossolette à Roubaix ?
Alors il va se passer beaucoup de choses en fait, parce que comme l'expliquait si bien madame, le réveillon c'est pas seulement le 31, c'est avant, oh
ben c'est toute
pendant,
l'année chez vous, c'est
après.
Bien.
c'est pas toute l'année, mais je veux dire c'est vrai que notre ambition est quand même d'arriver à ce que les gens après le 31 aient encore envie de se retrouver, de faire des choses ensemble. Donc déjà au départ nous préparons un réveillon qui est ouvert à tous. Donc il faut savoir que enfin, je veux dire, les gens, même les plus en difficulté, peuvent venir à ce réveillon. Donc, nous pouvons, par exemple, le préparer en faisant des menus. Donc, en organisant, par exemple, des mercredis après-midi avec des enfants pour faire des menus, des choses comme ça. Ça peut être envisageable. Aussi, après, aussi, faut tenir compte, justement, des différentes, nationalités, tout ça, pour la conception des repas.
Donc du coup, il va y avoir beaucoup de cuisine du monde.
Pas forcément, mais des choses que... parce que c'est vrai qu'il faut voir aussi... Bon, là, le réveillon se passe dans une salle où on ne peut pas forcément cuisiner ni réchauffer.
C'est pas très
pratique. Donc là, forcément... mais ceci dit, tout le monde y trouvera son compte.
Bon, alors c'est parfait. Puisque c'est ouvert à tous,
oui.
on peut aller voir.
Là, nous avons besoin de moyens. Donc les moyens humains, nous essayons donc de les rassembler. Et c'est là qu'intervient la Fondation de France, effectivement, pour nous aider à réaliser nos projets
financièrement. Et d'ailleurs, le 31 décembre, on peut aller voir Let's Dance au Frénois, dont on va parler tout de suite, et puis enchaîner sur le réveillon à Roubaix. C'est pas si loin, Tourcoing et Roubaix. Thérèse Dossin et Jasmine Dumortier, merci. Donc, on vous souhaite en tout cas un bon réveillon de la solidarité à Roubaix ou ailleurs.